Nous allons poursuivre ce matin sur le thème de l'Épître aux Galates, au chapitre 1er. Le titre du message, c'est « La grande délivrance de l'Évangile ». Je prends position que ces églises de la Galatie étaient dans la Galatie du Sud, la partie du Sud, cette grande province de la Galatie. Et si vous lisez dans le Livre des Actes au chapitre 13 et 14, vous y voyez les diverses églises que Paul a implantées là dans la Galatie du Sud. La plupart d'entre elles étaient des églises composées de gentils, de païens. Il y avait quelques juifs parmi elles, mais la plus grande majorité étaient des gentils qui avaient été sauvés par la grâce de Dieu. Donc nous allons lire dans Galates 1, on va lire la partie 1 à 4. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Prions. Père éternel, nous te remercions pour cette parole que nous avons sous les yeux. Cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, par ton esprit, à saisir et à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner ce matin. Nous te louons, Seigneur, pour les effets bénéfiques de ta parole dans nos vies, Seigneur, et que ça puisse nous aider, Seigneur, à nous approcher de plus en plus de toi, et que nous puissions glorifier ton nom dans ce monde, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Permettez-moi de vous avertir que cet épître aux Galates, on va faire en quelque sorte on va essayer de se raccrocher avec ce qu'on avait dit la dernière fois lorsqu'on a abordé l'épître aux Galates. Donc, cet épître aux Galates a été vue comme de la dynamite spirituelle. C'est comme si elle avait une mèche. Vous pouvez sentir cela dès l'introduction ou la salutation. Généralement, une salutation ou une introduction dans ces temps anciens avait trois parties. Vous aviez l'auteur, le récipiendaire, et ensuite vous aviez la salutation ou l'introduction. Et lorsque nous regardons à l'introduction ou la salutation ici dans Galates 1, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut sentir que les étincelles volent. Paul, apôtre, dès le début de Galates 1. Mais il n'arrête pas là. On peut remarquer comme il continue vitement pour dire quelque chose concernant son apostolat, son ministère. Il apporte plutôt un négatif fort. Au verset 1, « Non de la part des hommes, ni par un homme. » Pourquoi met-il l'emphase sur son apostolat? C'est parce qu'il y en avait quelques-uns qui avaient infiltré ces églises et ils jetaient du brouillage, en quelque sorte, ou des revendications sur Paul et sur son appel à être un apôtre. Paul est très conscient de la diffamation et il fait face et attaque la source tête première. Au verset 1, c'est pour ça qu'il dit « Paul, apôtre, je suis un apôtre ». Il ne fait pas seulement tourner autour, mais il leur laisse savoir « Parce que je suis un apôtre, je demande une oreille ». Paul leur laisse savoir que « J'ai quelque chose de très important à dire et que je suis sur le point de vous en parler en tant qu'apôtre avec la pleine mesure » ou tout le poids de l'autorité divine. Le deuxième élément de cette introduction ou salutation, comme il a été mentionné, concerne les récipiendaires de la lettre au verset 2, aux églises de la Galatie. Et encore ici, il y a quelque chose, quelques étincelles Certainement que vous me direz, mais où sont-elles? Eh bien, lorsque Paul écrit ses lettres aux églises, aux différentes églises, il dit toujours quelque chose de positif. Il donne des encouragements, des éloges, une recommandation, telle qu'on peut le voir dans Romains 1, 7, où il dit, il les appelle les bien-aimés de Dieu. Lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2b, même ces malheureux Corinthiens, il peut dire « sanctifiés dans le Christ Jésus ». Lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse, il les appelle « saints et fidèles ». Il a de belles choses positives à dire. Paul était celui qui encourageait. Quand et où il pouvait, il encourageait les saints ou les églises. Mais ici, dans Galates, vous ne trouvez pas de recommandation d'éloge. C'est perceptiblement absent. Voyez ce qu'il dit aux églises de la Galatie. Il ne mentionne rien de positif, il ne donne aucun éloge, aucune recommandation, ce qui dénote qu'il écrit cette lettre dans un esprit d'indignation et de colère. Il est bouleversé par les Galates, mais pourquoi est-il bouleversé? Eh bien, ils ont abandonné ou sont en train d'abandonner l'Évangile de Jésus-Christ. C'était le cœur de la situation. Ils ajoutaient à l'œuvre de Christ, disant, « Si vous pouvez être sauvés ou vous voulez être sauvés, vous devez avoir l'Évangile de Christ plus, plus, plus. » C'était une sorte d'approche mondaine du salut. Et ainsi, ici, nous trouvons que l'enjeu ne peut pas être plus élevé. Leurs âmes sont en grand danger. Et cela explique pourquoi les étincelles volent. Pourquoi cette épître, presque du commencement à la fin, est enflammée et explosive. Mais comment Paul transige-t-il avec le problème de ce faux enseignement que nous pouvons appeler une hérésie? Eh bien, ici, il dépose l'Évangile. Et nous voyons dans le chapitre 1er, il mentionne l'Évangile 8 fois, au verset 6, 7, 8, 9, 11, 16, 21 et 23. Et tout au long de l'Évangile, il affirmera et réaffirmera l'essence et le contenu de l'Évangile. Il élèvera bien haut la garde, la droiture de l'Évangile. La dernière fois que nous avions abordé l'épître aux Galates, nous nous étions arrêtés sur deux mots de l'Évangile. Au verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données. » Nous avions dit que la grâce était un mot-clé, que c'était la source ultime de l'Évangile. Si Dieu n'était pas un Dieu de grâce, il n'y aurait pas d'Évangile. La grâce est la faveur de Dieu pour ceux qui ne le méritent pas. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de raison pour la grâce que la grâce elle-même. C'est la grâce étonnante, abondante. C'est la grâce trouvée dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors que la grâce est la source ultime de l'Évangile, la paix est le fruit de l'Évangile. La grâce apporte la paix. La paix avec Dieu, la paix avec notre prochain, la paix même en nous-mêmes, en termes de paix de Dieu qui dépasse tout entendement. Ainsi, nous avions la cause et l'effet de l'Évangile, que la grâce et la paix vous soient données. Mais Paul a plus à dire concernant l'Évangile. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Il tient le bâton de droiture de l'Évangile devant les Galates. Nous allons considérer, à la lumière du verset 4, ces trois particularités. La première particularité, le focus de l'Évangile, le qui, l'essence de l'Évangile, le quoi, le but de l'Évangile, le pourquoi. Donc, le focus de l'Évangile. Remarquez comment le verset 4 commence. Il commence avec un pronom. Qui? Et la question qui est soulevée, qu'est-ce qu'il a en vue? Eh bien, vous regardez, vous devez aller au verset 3 et vous voyez le qui. Le qui est identifié de trois manières. Alors, si on va recule au verset 3, vers la fin, la partie B, à partir où il nous est dit « De la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Il est identifié de trois manières, par le titre, par le nom et par l'office, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons faire une parenthèse ici et penser à ces trois identités. Le titre, le nom, l'office. Le titre, Seigneur. Qu'est-ce qu'il signifie? Il vient du grec « kurios ». Si vous prenez une traduction de l'Ancien Testament qui s'est trouvée dans le grec, vous trouvez ce mot « kurios » approximativement 10 000 fois. Ainsi, c'est un grand mot dans l'Ancien Testament. C'est un mot qui fait référence à des gens quelquefois qui sont en autorité, qui ont des positions de pouvoir, des rois, des maîtres. Mais il est utilisé la plupart des fois dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. 6 000 fois ce mot « kurios » pour « Seigneur » est trouvé dans la Septante. Qui veut dire « le Seigneur créateur, le Seigneur souteneur, le Seigneur qui soutient ». On le voit entre autres dans le psaume 97. Ainsi, toutes les fois que vous voyez ce mot « Seigneur » dans l'Ancien Testament, vous pouvez penser à ce mot grec « kurios », c'est-à-dire le titre donné à Dieu. Et lorsque vous ouvrez le Nouveau Testament, ce mot « kurios » est appliqué à Jésus. Commençant dans l'Évangile de Matthieu, aller jusqu'à l'Apocalypse, ce même mot « kurios » est utilisé pour Jésus. Vous pouvez comprendre pourquoi cela ne devrait pas nous surprendre lorsque nous voyons Jésus en action. Lorsque nous regardons à l'Évangile, nous pouvons dire, comme le psalmiste, « Le Seigneur est grand. Le Seigneur fait ce qui lui plaît au ciel et sur la terre. » Regardez à Jésus, regardez à sa puissance, regardez à son autorité, regardez alors qu'il calme la tempête avec sa parole, lorsqu'il marche sur les eaux. Ce monde maudit par le péché et tout ce mal avec ses maladies infirmes, que ce soit des possessions démoniaques ou la maladie terrible de la mort elle-même, aucune ne peuvent tenir la main du Christ Jésus. Le commandement de sa voix, sa touche guérissante, aucune maladie, peu importe comment elle était agressive de nature, peu importe comment étendue elle était. Vous pouvez vous rappeler, dans Jean, l'Évangile de Jean, cet homme avec une infirmité depuis 38 ans, Jésus l'a guéri. Vous pouvez vous rappeler lorsque un de ses lépreux est venu à Christ. Il est décrit qu'il était plein de lèpre, ce qui était de la tête aux pieds. La lèpre couvrait tout son corps, mais Jésus l'a guéri. Partout où vous tournez dans l'Évangile, peu importe que vous voyez un problème, Jésus y fait face. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, avec la belle-mère de Pierre atteinte de fièvre sévère, lorsqu'il maudit le figuier, il a exercé son pouvoir sur la création. Lorsqu'il a exercé son pouvoir concernant, vous vous rappellerez, cette pièce d'argent qu'il a envoyé un des disciples chercher dans la gueule d'un poisson pour pouvoir la donner à César, pour pouvoir payer le tribut à César. Lorsqu'il a exercé son pouvoir et son autorité sur la mort de son ami Lazare, sur les démons, il pouvait faire taire les démons, il pouvait réprimander les démons, il pouvait exorciser et détruire les démons. Il est le Seigneur, il est le Kurios, le souverain suprême de l'univers. Ainsi, lorsque Paul écrit cette lettre aux Galates, qui? Il nous dit concernant ce qui, avec ce grand mot « Seigneur ». Mais on peut remarquer le deuxième mot, il se déplace du titre au nom. Le Seigneur, le titre, et le nom Jésus. Donc, le nom Jésus. Vous savez certainement que ce nom est très significatif. Si nous tournons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1, nous apprenons que ce nom a été donné antérieurement à la naissance de Jésus. C'est un nom juif qui était commun, qui était usuel. Ce n'est pas un nom choisi par le Père ou la Mère, mais choisi du ciel. Donc, au verset 20, il est donné à Joseph une révélation spéciale. Matthieu nous dit qu'un ange est apparu à Joseph dans un songe. Il n'y a rien qui est dit concernant l'ange. On n'a pas de particularité concernant l'ange. Mais l'important, ce n'est pas l'ange, mais c'était le contenu du message qu'il avait à dire. Et qu'est-ce qu'il dit à Joseph? Eh bien, il dit que Marie deviendra enceinte de manière surnaturelle. L'incarnation, le Saint-Esprit va concevoir dans son sein un enfant. Et il nous est dit que cet enfant sera un fils, au verset 21. Mais maintenant voyez ce qui est dit à Joseph par ce commandement. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Eh bien, il nous est dit, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus signifie « Seigneur et Sauveur ». Le nom de Jésus nous amène à la croix. Le nom de Jésus nous explique pourquoi il est venu dans ce monde de noirceur, de ténèbres. Le nom de Jésus nous explique pourquoi la deuxième personne de la Trinité a pris un corps de chair, s'est incarné. Le nom de Jésus nous dit pourquoi Jésus a respiré notre air, a mangé notre nourriture, a porté nos vêtements. Pourquoi il s'est frotté avec les collecteurs de taxes, avec les pécheurs, les prostituées, les rejetés de la société. Pourquoi? Il est venu pour sauver. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Le focus de l'Évangile est sur une personne, le qui. Et Paul nous dit, le qui, c'est le Seigneur, c'est Jésus, le Seigneur Jésus. Mais il y a un mot de plus pour nous aider à comprendre le qui. Et c'est un mot qui décrit l'office de Jésus. Vous avez le titre, le nom et l'office, le Seigneur Jésus-Christ. L'office est donc Christ. Il y a apparemment seulement trois occasions dans les évangiles où Jésus se donne lui-même comme témoin pour cet office messianique. Et la première vue que nous avons, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4. C'est l'endroit le plus étrange avec les gens les plus étranges que nous pouvons y voir. Il est assis sur le bord d'un puits. Alors, on se rappellera que c'est le péricope de la Samaritaine, l'entretien de Jésus avec la Samaritaine. Il est assis sur le bord d'un puits, non pas dans un palais, non pas dans un temple. Il est assis en face d'une Samaritaine, une femme, une païenne. Et elle apporte cette affirmation concernant le Messie au verset 25. Elle dit, « Je sais que le Messie vient, et lorsqu'il viendra, il nous annoncera tout. » Elle a une compréhension de l'Ancien Testament et la promesse du Messie. Et Jésus donne à cette femme samaritaine le plus grand choc de sa vie lorsqu'il dit au verset 26, « Je le suis, moi qui te parle. » Et pour paraphraser, il dit, « Madame, vous regardez en face celui qui a été promis. Vous regardez en face le Messie. Je suis le Christ. » À la toute fin de sa vie, Jésus nous donnera un autre témoignage clair qu'il est le Christ dans Matthieu 26. Se tenant devant le grand prêtre Caïphe qui fait cette enquête, cette inquisition sur notre Seigneur au verset 63. Et le souverain sacrificateur lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et comment Jésus répond-il? Au verset 64, il répond avec cet énoncé, « Tu l'as dit, je suis le Messie, je suis le Christ. » Et comment ne pas oublier cet incident dans Matthieu 16, cette confession qui vient non des lèvres du Seigneur, mais des lèvres de Pierre. Jésus cherche une réponse ici. Il demande au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? » Et les disciples, ils répondent avec une série de noms, plusieurs des grands prophètes, et ils mettent Jésus au plus haut échelon des prophètes de l'Ancien Testament. Mais Jésus n'est pas satisfait avec cette réponse, comme on peut le voir. Il approfondit davantage et il leur dit au verset 15, « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Il a demandé cette première question, à savoir ce que les gens disent, qui je suis. Mais maintenant, il indique exactement aux disciples et dit, « Mais vous, il les pointe personnellement, mais vous, mes proches, ceux avec qui on vit ensemble pendant une certaine période, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Pierre, qui a eu cette proximité avec le Seigneur et qui a été à côté de lui, était à côté de lui constamment, pendant 3 ans, donne cette réponse au verset 16. « Tu es le Christ, le Messie, celui que nous attendons. Tu es celui qui a été promis depuis Genèse 3:15. Tu es celui, et on a vu avec Marcel dans le concernant les types et les antitypes, donc, tu es celui, l'antitype, Jésus était l'antitype. Qui vers qui? Tous les types, tous les ombres de l'Ancien Testament pointaient. Les prêtres, les rois, les prophètes. Ils anticipaient tous le Fils du Dieu vivant. Tous ces prêtres, ces rois et ces prophètes de l'Ancien Testament n'étaient que des petites lueurs brillant, s'élevant vers la grande lumière du Seigneur Jésus-Christ. Aussi grands que ces hommes fussent, Abraham, Moïse, David, Salomon, Aaron, tous ont failli, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre. Nous avions besoin de quelqu'un de plus grand qu'un Abraham ou un Moïse. Nous avons besoin de Christ, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Le focus de l'Évangile dans Galates 1, 4 est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre deuxième point que nous allons aborder, l'essence de l'Évangile, le quoi. Le qui est suivi par un mot d'action, un verbe, s'est donné au verset 4. Il s'est donné. L'Évangile est un Évangile d'action. Il est rempli d'indicatifs triomphants, pouvons-nous dire. Il y a 3 modes de verbe, l'indicatif, l'impératif, le subjonctif. Quelle en est la différence? Eh bien, l'indicatif déclare les faits. L'impératif vient avec le commandement. Le subjonctif dit « si tu peux faire cela, tu n'es pas certain ». Mais l'indicatif l'est. L'indicatif nous dit ce qui est arrivé. Le verbe indicatif nous dit ce qui a été accompli. L'impératif nous dit ce que nous devons faire à la lumière de l'indicatif. L'Évangile a les deux, indicatif et impératif. L'Évangile a des commandements, repens-toi, crois. Ce sont des commandements de l'Évangile. Mais l'Évangile ne commence pas avec des impératifs. Il commence avec des indicatifs. L'Évangile commence avec ce que Dieu a fait. Si vous êtes confus avec cela, vous allez embrouiller l'Évangile. Il commence avec ce que Dieu a fait. Martin Lloyd-Jones cite « La Bible n'est pas un livre qui nous dit ce que nous avons à faire pour que nous soyons justes. La Bible n'est pas seulement un livre faisant appel à seulement faire ceci ou faire cela ou faire autre chose. Faire et accepter des idées et les amener à la pratique. Ce n'est pas un livre qui nous dit principalement de faire toutes sortes de choses. C'est une grande annonce de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et il nous dit ici, n'est-ce pas, ce que Dieu a fait, ce que Christ a fait. Nous avons un indicatif triomphant ici au verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Et le terme grec ici utilisé est « didomai », qui a la connotation d'accorder, qui donne l'idée de cadeau. Paul ne perd jamais de vue l'Évangile. Il ne perd jamais de vue plutôt que l'Évangile est un Évangile de grâce, que c'est un Évangile qui est offert gratuitement aux hommes. Il donne le plus précieux cadeau qui n'a jamais été donné. Et remarquez de manière que c'est dit, qui s'est donné lui-même. On est toujours impressionné lorsqu'on entend des gens souvent, des gens des millionnaires souvent c'est des artistes d'Hollywood et des grandes personnalités de ce monde qui disent qu'on a entendu dernièrement qu'il y en a qui ont donné 30 millions, 40 millions, 50 millions. Ce sont tous des choses qui nous impressionnent, qui nous font « wow », dire « wow », c'est impressionnant. Ce sont des bonnes choses en termes de bienveillance, de bienfaisance, que ces gens-là font. Ils ne plaisent pas à Dieu parce que ce n'est pas donné dans la foi en Christ. Mais ce sont des choses bonnes si vous les regardez en termes de bonté civile. Mais aucun de ces gens ont donné tout ce qu'ils ont. Ils ont encore des millions et des millions en réserve, souvent. Ils ne sont pas comme cette pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Ils ne se sont jamais donnés eux-mêmes. Qui le fait? Eh bien, Christ l'a fait. Il s'est donné lui-même. Nous pouvons le voir dans Éphésiens 5, 25b. On peut tourner dans Éphésiens 5. Il nous est dit, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et si nous allons aussi dans Tite 2, 14, il nous est dit, dès l'entrée de jeu, « Il s'est donné lui-même pour nous. » C'était un sacrifice de lui-même. Il a abandonné sa couronne. Il s'est donné lui-même en prenant la forme d'un serviteur, que la Bible nous dit. Vous pouvez parcourir tout son ministère du commencement à la fin. Vous pourriez dire, quels que soient les miracles, il a donné quelque chose de lui-même. Rappelez-vous, lorsque cette femme a touché le pan de son vêtement, Jésus a dit, « Qui m'a touché ?» Il a perçu la force qui est sortie de lui. Dans chaque miracle, il a perdu quelque chose. Il a donné de lui-même une partie de sa puissance, de sa grâce, de sa miséricorde. Et il n'a pas fait cela simplement pour écouter ses disciples qui souvent se chamaillaient entre eux, s'ostinaient souvent pour des niaiseries. Et les entendre souvent se quereller. Nous parlons ici de patience que le Seigneur a eue envers eux. Jésus a beaucoup donné. Mais alors qu'il s'approchait de plus en plus de la croix, nous le voyons encore donner plus, encore plus. Il a donné tout de son confort. Il a été suspendu sur la croix. Il est dénudé, sans vêtements. Mais là, sur la croix, il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie, il a versé son sang. Et Paul veut que nous sachions ici, dans Galates 1, 4, concernant deux aspects de son don, que c'était un don volontaire. Il utilise un verbe réfléchi. Il s'est donné lui-même délibérément. Il n'était pas forcé de se donner. C'était un abandon volontaire. Nous lisons dans Jean 10, 17 et 18, « Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Ainsi, il s'est donné lui-même de manière volontaire, mais il s'est aussi donné lui-même, notez le texte, comme substitution. Remarquez la préposition. Il s'est donné lui-même pour, en grec c'est le mot hyper, U-P-E-R, pour nos péchés. Et comment comprendre cette préposition pour, qui en grec est hyper, cette préposition, pouvons-nous dire, trempe avec l'encre prophétique d'Ésaïe 53. Si vous voulez comprendre la doctrine de la substitution dans sa présentation la plus hardie, la plus saillante, la plus graphique, vous devez lire Ésaïe 53, 6, 5 et 4. C'est ici la doctrine de la substitution. Il est là sur la croix à la place du pécheur. C'est l'essence de l'Évangile. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Le charpentier crucifié n'était pas là à cause de ses péchés parce qu'il était parfait, sans péché, sans tache. Il était là pour nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, pour tous nos crimes, tous nos péchés. Pensons à tous les péchés que vous avez, que nous avons commis seulement cette semaine passée, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Christ était là pour tous nos péchés. Il était là pour nos transgressions, pour chaque péché que nous avons commis contre lui de notre berceau, de notre naissance jusqu'à notre tombe, jusqu'à notre mort. Le péché contre sa loi, contre sa personne, contre son évangile. Le focus de l'évangile, le qui? Le Seigneur Jésus-Christ. L'essence de l'Évangile, le quoi, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Mais troisièmement, notez au verset 4, les effets ou la puissance de l'Évangile, ou l'accomplissement de l'Évangile, ou l'accomplissement de la croix, le pourquoi. Paul utilise un verbe expressif, comme nous avons déjà mentionné, l'Évangile est un Évangile d'action. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher, de nous délivrer au siècle présent. Lorsque vous pensez à ce que Christ a fait sur la croix, qu'est-ce qui vous vient souvent le plus à l'esprit? C'est le péché. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est ce que Paul nous dit. C'est vrai, c'est merveilleusement vrai, mais l'Évangile de Christ a accompli plus. John Piper a écrit un livre qui s'appelle The Passion of Jesus Christ, la Passion de Jésus-Christ. Et il donne 50 raisons pour lesquelles Christ est venu mourir. Non pas 10, 20, 30, mais 50. Et certainement, il y en aurait peut-être même 50 autres, parce qu'il y en a d'innombrables. Mais le point ici qui est important de souligner est que l'Évangile de Jésus-Christ et le but à savoir pourquoi il est venu est complexe. Et Paul, même ici dans Galates 1, 4, donne deux prises de vue de l'Évangile en termes de prise de vue, deux espèces, comme on pourrait dire, deux photographies de l'Évangile en termes de qu'est-ce qu'il a accompli et pourquoi il est venu et est mort. Premièrement, il est venu et s'est donné lui-même pour nos péchés, pour agir avec le problème du péché dans notre propre vie et dans nos propres cœurs. Deuxièmement, notons ce qu'il continue à dire, afin de nous arracher au siècle présent. Au présent siècle mauvais. Le mot grec pour siècle est aion, A-I-O-N, qui a une connotation, une signification de eschatologie. La Bible divise toute l'histoire, toute l'éternité, pour ainsi dire, en termes d'âge de siècle. le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle présent est chevauché par le siècle à venir. Le siècle présent, et vous avez le siècle à venir qui chevauche. Lorsque Jésus est entré dans ce monde et est mort sur cette croix, le siècle à venir a commencé. Nous vivons encore dans ce siècle, mais le siècle à venir et son puissant dynamisme spirituel et opérationnel a commencé à opérer dans la vie des gens. C'est un peu comme une femme qui est enceinte, lorsqu'elle tombe enceinte et elle dit qu'elle commence à sentir, lorsqu'elle entend le bébé bouger dans son ventre, là, elle commence à dire qu'il y a quelque chose. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, le siècle à venir a commencé. Et lorsqu'il reviendra une deuxième fois, le siècle présent prendra fin. Mais ce siècle dans lequel nous sommes, le décompte est commencé. C'est temporel. C'est un siècle qui passe, qui s'écoule. C'est un siècle transitoire. Lorsque vous regardez dans le bâtiment dans lequel nous sommes et tout ce qu'il y a, tous les objets, toutes ces choses sont de ce siècle. Elles sont temporelles. Un jour, elles ne seront plus. Le bâtiment et tout cela arrivera à une fin, arrivera à sa fin. Même les bonnes choses de cette vie sont de ce siècle. Le mariage, par exemple, et lorsqu'on il est mentionné dans Luc 20, au verset 34 et 35, où le Seigneur nous dit, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prendront ni femme ni mari. » Ce que Paul veut que nous comprenions concernant ce siècle est que ce siècle est mauvais. C'est le mot qu'il utilise. Pourquoi est-il mauvais? Eh bien, dans 2 Corinthiens 4, 4 nous dit que le diable est le dieu de ce siècle. Nous lisons dans Éphésiens 2, 2, que les incroyants sont des gens qui marchent selon le cours de ce siècle. Et le monde moderne a une expression pour cela, c'est un mot allemand. Fait qu'on va apprendre un mot allemand ce matin. C'est Zeitgeist. Zeitgeist. Et il apparaît dans, si vous regardez dans un dictionnaire anglais, il apparaît dans le dictionnaire anglais. Et la signification, ça donne l'esprit de ce siècle, le mood de ce siècle. Il signifie la passion, l'engouement de choses. Et vous le voyez partout. Vous le voyez dans les vêtements. Vous le voyez lorsque vous regardez la télévision. Vous avez l'esprit de ce siècle d'une façon ou d'un autre. Il est imbibé dans notre culture. Et le Zeitgeist a plusieurs facettes, différents noms. C'est dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons. Il s'accroche plutôt à la pensée des gens. Vous avez l'esprit de l'émotivité. Les gens vivent selon leur feeling. C'est l'esprit de ce siècle. Ils ont des choix. Ils citent ce que leur cœur leur dit. Mon cœur me dit que je ne veux plus vivre avec cette personne. Je vais le quitter. Vous avez l'esprit du matérialisme, l'esprit du maintenant, l'esprit de l'instantané. Je veux l'avoir tout de suite. Et cela explique pourquoi tant de gens dépensent et dépensent. et ont des cartes de crédit en quantité industrielle qui sont remplies au maximum. Vous avez l'esprit ou le zeitgeist, qu'on peut dire, du sensualisme. Vive pour nos goûts, notre appétit pour la nourriture, pour la boisson, pour le sexe. C'est cela qui explique l'industrie milliardaire de la pornographie. Le zeitgeist explique le penchant attachant qui est si dominant dans notre société. L'alcool, la nicotine, la caféine, la télévision, le sucre. Le zeitgeist de l'hédonisme, comme il nous est mentionné ou qui nous est élaboré dans 2 Timothée 3. Si vous lisez 2 Timothée 3, vous avez toute cette panoplie. Les amants du plaisir, le zeitgeist du matérialisme, comme on a déjà mentionné, vivent pour la toute nouvelle chose, que ce soit la nouvelle auto, la nouvelle garde-robe, la nouvelle maison, le nouveau parfum, la toute nouvelle sensation technologique. Qu'en est-il du zeitgeist, du moi, de l'individualiste, comme il s'est dit en anglais, le « me, myself and I », on a certainement déjà entendu ça. Mes droits, mes émotions, mes besoins, mes désirs. Le zeitgeist de la victimisation. C'est toujours la faute de l'autre. Les gens ne veulent pas prendre la responsabilité pour leurs actions. C'est pourquoi vous entendez rarement la confession des péchés. J'avais tort, j'ai péché, me pardonneras-tu? Vous voyez, ce présent siècle mauvais est rempli de toutes sortes de ismes. Tout ce qui finit en isme, matérialisme, qui milite contre Dieu, qui nous a créés, contre la parole de Dieu et sa loi, son évangile. Il oppose sainteté et piété dans nos maisons et dans nos églises. Ces Galates, ces gens à qui Paul écrit aux églises de la Galatie ont commencé à flirter et à jouer avec le zeitgeist de ce siècle. Le légalisme, la fausse religion, la manière populaire, la manière du monde d'obtenir, d'acquérir la foi de Dieu. C'est le zeitgeist, le mal. Le salut par moi-même. Je peux me sauver moi-même. C'est ce avec quoi il jouait. Le zeitgeist qui nourrit l'orgueil humain, cette tentative de voler la gloire de Dieu et la grâce libre de l'Évangile. Paul rappelle à ses Galates ce que Jésus-Christ a fait. Vous avez été arrachés, comme on a vu dans le texte, extirpés au siècle présent. C'est un peu l'exemple d'un homme qui est dans un bâtiment en feu, puis qui essaie d'échapper au feu, et il court, et là, il ne court pas vers la sortie, il court en montant les étages. Et finalement, il se rend jusqu'au toit, et là, il n'y a plus d'issue. Alors, il aperçoit un hélicoptère qui vient, qui lui tend un câble et qui se saisit, qui l'amène au loin, qui l'arrache des flammes. C'est ce que Dieu fait avec l'Évangile. Il a accompli la plus grande opération de sauvetage, non pas physique, mais spirituelle, morale. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est ce qu'il a accompli. C'est le triomphe indicatif de l'Évangile. Qui d'autre aurait pu le faire sinon le Seigneur Jésus-Christ? Le focus de l'Évangile, l'essence de l'Évangile, les effets ou la puissance de l'Évangile. Et comme conclusion, que pouvons-nous dire? Eh bien, lorsque nous considérons Galates 1:4, ne voyons-nous pas la puissance de l'Évangile et l'aspect merveilleux, glorieux, efficace du salut de l'Évangile? Nous avons été délivrés de ce siècle présent. Il s'est donné lui-même pour nous afin qu'il puisse nous délivrer. Ainsi, ne pouvons-nous pas dire à chaque véritable enfant de Dieu, cher croyant, vivez à la lumière de cet évangile indicatif triomphant. L'indicatif vient en premier et ensuite l'impératif. un des impératifs qui nous vient de l'Évangile dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est un commandement. Vous avez été délivrés par la grâce de Dieu. Maintenant, vous ne devez pas vivre selon le cours de ce siècle. Vous ne devez pas vivre comme le monde vit. Vous ne devez pas permettre à ce monde de capturer votre âme. Vous ne devez pas écouter les gourous de ce monde. Vous ne devez pas succomber aux manies, aux caprices de ce monde et vivre sous les penchants de ce monde. Vous n'avez pas à dire oui aux convoitises et aux plaisirs. Vous ne devez pas nager avec le paganisme, le matérialisme, le sensualisme. Vous ne devez pas être dupé par le monde. Voici la grande stratégie, croyant, pour combattre, pour résister, surmonter le monde. Vous surmontez à la lumière du grand indicatif de l'Évangile. Christ nous a délivrés. Que penseriez-vous d'une personne, comme on a mentionné plus tôt, qui a été délivrée d'un édifice en flammes et qui retourne en courant dans l'édifice? Pour ainsi dire, qu'elle change de vêtements, se met du déodorant, se parfume, sort et y retourne. Nous pourrions dire que c'est fou. Lorsque Paul écrit aux Galates, c'est ainsi qu'il les appelle dans Galates 3.1. « Aux Galates insensés » qu'il est dit. « Pourquoi retournez-vous en arrière dans tous ces rituels? » Appliquez à nous. Pourquoi retournerions-nous dans cet édifice en feu du matérialisme, du moi-même, du paganisme? Vivez à la lumière de cet indicatif glorieux, triomphant, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher. Non pas vivre afin de satisfaire notre chair, mais afin de nous arracher au siècle présent. Croissez-vous dans votre amour pour Christ et dans la haine pour ce siècle. Croissance non dans la conformité à ce siècle. Croissez-vous. Si vous êtes un croyant, vous devriez être croissant dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. En tant que croyant, vous devriez voir le peu de profondeur, la nature superficielle de ce siècle présent, parce que vous en avez été délivré. Vivez à la lumière de ce que Christ a fait. Deuxième application, pouvons-nous dire, qui ressort de cette même perspective. Ne voyons-nous pas dans Galates 1.4 l'urgence de l'Évangile? C'est une opération de sauvetage. Galates 1.4, c'est en quelque sorte le 9.1.1 qui est écrit dessus. Christ est venu dans ce monde. Pourquoi? Pour se donner lui-même plutôt pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle. C'est pourquoi l'Évangile ne vient jamais à un pécheur par la manière d'une simple suggestion. Aimeriez-vous essayer Jésus? Non, il vient avec un plaidoyer sérieux et avec un avertissement fort, avec un commandement direct. Crois, repens-toi, cours, enfuis-toi. Il vient avec un sens que votre âme est en danger et qu'elle a besoin d'être sauvée. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le qui de l'Évangile, est le seul qui peut vous sauver. À chaque instant, vous et moi sommes de plus en plus près de l'éternité. Il y a une expression qui dit « Nous sommes à un battement de cœur de l'éternité ». Et vous avez seulement tant de temps pour croire en Christ, pour vous détourner de vos péchés. Ce siècle s'évanouit plus vite que nous pensons. Et la seule manière pour vous préparer à rencontrer Dieu n'est pas de vous vêtir de vêtements sales de votre justice, mais vêtu dans la robe parfaite de la justice de Christ. Vos péchés doivent avoir été pardonnés. Amen. Seigneur, nous te prions, nous te remercions pour ton évangile, Seigneur notre Dieu, qui pointe constamment vers la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu lui-même sur cette terre et qui s'est donné lui-même pour nous arracher à ce siècle présent. Seigneur, puissions-nous méditer par ton esprit, Seigneur, saisir et aussi comprendre l'ampleur de cette phrase, notre Dieu, qui a un impact sur notre vie. Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant de ce que tu t'es présenté, Seigneur, et que tu t'es offert à notre place, que tu as pourvu pour un si grand salut, et combien nous en avons besoin, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu, pour ta grâce envers nous, Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous aider, Seigneur, à proclamer ton évangile, Seigneur, à ceux qui sont perdus, à ceux qui n'ont pas d'espérance dans ce monde, à ceux qui mettent leur confiance dans leurs biens matériels, dans leurs richesses, dans leur propre personne, qui peuvent se sauver eux-mêmes, Seigneur. Ta parole nous dit que c'est impossible, que c'est une folie. Seigneur notre Dieu, accorde-nous, notre Dieu, de les diriger vers ta personne, Seigneur, et que ton nom puisse être glorifié, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.